Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4.
Saison 4, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Depont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Michel Buron. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence d'architecture Epicuria Architecte, implantée à Paris et créée en 1999. Vous avez réalisé à l'agence plus de 50 projets d'équipement scolaire, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Culturel et sportif aussi?
Oui.
En Île-de-France, en région en Outre-mer, vous construisez des bâtiments que vous vous attachez à rendre, je cite, « lumineux, inspirants, accueillants, en dialogue avec la nature et les éléments ». Vous aimez la sobriété, vous êtes soucieux de l'inscription dans l'histoire des lieux de votre architecture, de son impact sur le territoire et de son évolution dans le temps. À travers cette courte présentation, nous devinons que vous travaillez essentiellement au rythme des fameux appels d'offres au marché public ou en marché public, ce qui n'est pas rien et on va en reparler. Alors tout d'abord, pourquoi Epicuria ?
Epicuria, parce que je pense que d'abord, c'est, l'architecture, ça doit être le plaisir. Et pour moi, c'est toute cette notion de plaisir qui doit nous guider. Et puis Epicuria, on a féminisé le nom, parce que pour moi, l'architecture aussi est très féminine. Donc voilà pourquoi on a appelé Epicuria. Et puis Epicuria, en plus de ça, c'est pour les équipes, c'est important. On s'identifie plus à un nom plus générique qu'une personne, je trouve. C'est important.
Ouais. Oui, ça génère plus l'esprit de partage.
Plus l'esprit de partage, tout à fait.
Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte? Alors, je crois que votre parcours dans l'enfance est très important au niveau de votre pratique aujourd'hui.
Oui, parce que bon, j'ai passé toute ma jeunesse en Afrique du Nord, en Tunisie, là, plus de 10 ans et 2 ans au Maroc. J'étais un pays baigné de lumière, donc avec une architecture un peu particulière. Mais mes premiers souvenirs d'architecte, finalement, c'est assez curieux. C'est l'amphithéâtre d'El Djem. C'est une ruine romaine, mais qui je trouvais extraordinaire. On arrive comme ça, on voit cette grande ruine, ce grand amphithéâtre au milieu des maisons qui ont été construites avec les pierres de cet amphithéâtre. C'est assez fabuleux. Donc, c'est vraiment puis avec des parents enseignants. Hein, c'est pour ça que j'étais.
Vos deux parents étaient enseignants.
Les deux parents étaient enseignants.
Et enseignants primaires, secondaires.
Mon papa était instituteur et ma mère professeure de français.
Collège, lycée.
Était dans un collège.
Ouais.
Voilà. Mais ils ont enseigné en fait tous les. Mon père après était a enseigné aux instituteurs tunisiens. Il leur a appris le métier. Il était conseiller pédagogique. Mmh. Voilà. Mais bon, c'est une longue lignée parce que mes grands-parents étaient déjà instituteurs et mon arrière-grand-père également. C'est peut-être pour ça qu'après j'ai...
Vous êtes orienté vers les bâtiments d'enseignement.
Voilà, en tout cas, c'est marrant de voir la petite pirouette que l'on peut faire par rapport à...
En fait, vous dites c'est marrant, mais c'est quand même très singulier. Comment dirais-je, en général, les agences aiment diversifier leurs pratiques, ne pas être dépendants... d'un type, alors vous, je pense que vous n'êtes pas dépendant, mais il faut quand même passer par ce rouleau, entre guillemets, compresseur du concours.
c'est peut-être aussi ce qui me plaît. C'est peut-être aussi une forme de... Peut-être que j'ai pas trop envie de me frotter à des promoteurs. J'aime cette liberté du concours où on doit se surpasser soi-même pour arriver. Moi, étant issu de fils d'un site, c'était pas quelque chose qui était facile pour moi de rencontrer les gens, de parler d'affaires, etc.
C'était quelque chose de monter au créneau.
Monter au créneau, c'est quelque chose qui me mettait un peu mal à l'aise. Je savais pas faire. Donc, le concours, c'est plus facile finalement. On montre ce que l'on sait faire. Alors, ce qui est difficile, c'est surtout se faire retenir à des concours. Ça, c'est compliqué. Alors, ça s'est fait petit à petit. Et puis, ce choix après, voilà, complètement assumé. Donc, on fait 100% de notre activité par les concours. Donc,
alors, on va y revenir. Mais moi, j'aimerais quand même approfondir un petit peu votre enfance et votre parcours, parce que je suis très curieuse. Ce désir d'architecture, il y est arrivé comment ?
Alors, ce désir d'architecture, déjà, c'était aussi, j'ai toujours aimé beaucoup dessiner, hein, c'est ce plaisir de dessiner. J'avais un oncle qui était décorateur, donc architecte décorateur, qui construisait, qui dessinait des choses. Donc, j'étais gamin admiratif devant ses dessins d'architecte. Ça, c'était aussi quelque chose qui m'a énormément motivé. Et puis, donc, après, ça m'a forgé dans cette volonté de devenir architecte. Donc, voilà, j'ai voulu absolument faire ce métier. Et ça.
Et à votre avis, c'est arrivé cette détermination est arrivée à quel âge ?
Oh, elle est arrivée vers 14 ans.
À l'adolescence,
oui.
Ça vous a porté ?
Oui, complètement. Ouais. Avec les difficultés, parce que en plus de ça, voilà, on voulait m'orienter plutôt vers le littéraire, alors que je pensais qu'il fallait faire.
Tu seras enseignant, mon fils.
Oui, donc faire des maths, etc., pour être architecte. Donc je me suis battu pour faire ce qui n'était pas absolument nécessaire, mais je me suis battu pour faire un bac C, voilà. Et puis que j'ai eu avec difficulté. Chacun est un peu différent. Ouais. Ce qui est très drôle, je suis dyslexique en plus de ça. Donc, mais on rencontre ça très souvent chez les architectes. Mais donc après, on a une organisation en fait du cerveau qui permet de voir les volumes de manière différente, d'organiser les choses un peu différentes. Et donc voilà, peut-être, je me dis que c'est peut-être des prédispositions qui m'ont.
Et vos parents, ils ont accepté cette...
Oui, tout de suite. Tout de suite. Ils m'ont encouragé. Ça, c'est...
Bah, c'est bien.
Ça, c'est vraiment... Ils ont voulu que je fasse quelque chose qui me plaise. Hein. C'est...
Et donc, vous êtes rentré dans quelle école ?
Alors, je suis rentré à UP1. Hein, l'école d'architecture Paris-Villemain, UP1, parce que après ma période en Afrique du Nord, j'ai passé mon baccalauréat à Blois, où était originaire ma famille. Et allant à Paris, UP1, j'ai pris la première, je dis la numéro 1, ça doit être la meilleure. C'était très bien, c'était Kemalaké.
Ouais.
Hein, c'était en 79. C'était bien, parce que t'es encore à l'époque où il y avait les trois écoles d'architecture, il y avait UP4, UP9. Avec des souvenirs dans Kemalaké, les Beaux-Arts, avec la grande salle Melpo, la cour des Mûriers, c'est
mythique.
C'est mythique, c'est des super souvenirs. Et puis après, on est UP1 d'ailleurs, on était entre Kemalaké et Paris-Villemain, hein, qui est maintenant la maison d'architecture, que j'ai connue complètement délabrée, mais c'était formidable parce qu'on faisait des grandes fêtes là-bas, et avec des planchers défoncés, etc. Dans cette donc de belles années à l'école d'architecture. J'ai dû faire mon service militaire entre-temps, ce qui n'a pas été toujours facile. Ça m'a scindé un peu avec tous les amis qu'on a en première année. Ouais. Et surtout, c'était l'époque où il y avait les concours d'architecture, en fait, à la fin de la première année, qui était important.
Oui,
et
puis c'était une époque où on pouvait travailler en parallèle de ses études.
Et on travaillait aussi en parallèle de ses études.
Oui, alors qu'aujourd'hui, ils ont des cursus très chargés.
Très chargés, oui.
Ouais. Et donc, vous avez des souvenirs d'enseignants ou de...
Ah oui, donc il y avait Philippe Maillard, H.P. Maillard, Céris, Fab Perrotet qui était à l'école, Michel Duplay, Paul Ducamp, qui était mes premiers enseignants en première année, c'était important. Yali Chnirovitch qui m'a appris la programmation aussi.
Oui, parce que en fait, vous avez débuté tout de suite à votre compte ou...
Non.
Vous avez charité dans des agences.
J'ai charité dans des agences. Voilà, oui. Puis J'avais eu besoin, en plus de ça, pour terminer mes études, j'ai fait des prêts, donc il fallait les rembourser, il fallait travailler.
Ouais. Et je crois que vous avez, avant de créer Epicuria, vous aviez déjà travaillé à votre compte, et à la fois en maîtrise d'œuvre,
oui,
et en programmation, justement.
Tout à fait, voilà. Ouais. C'est quand je me suis mis, finalement, à un moment donné, à mon compte. Bon, je me suis dit, c'est pas difficile. J'étais dans une agence où je faisais pas mal de concours. J'ai pensé, c'est simple, il faut faire un concours et le gagner. Mais je me suis aperçu, ce qui était très dur, en fait, c'était d'être retenu à un concours, à concourir, avoir des références propres à celles que l'on avait réalisées avec quelqu'un d'autre. Et j'avais fait un peu de programmation, donc j'ai fait beaucoup de programmation. Et puis, ça, c'est des rencontres, aider certains maîtres d'ouvrage qui avaient des problèmes sur des... Donc, ça m'a permis d'être retenu comme ça, sur comme outsider, sur un des premiers concours, voilà.
Qui était un concours de...
Alors, le premier concours sur lequel j'étais retenu, c'était un concours de gymnase, de restructuration d'école.
D'accord. Et qui était où ?
Qui était au Plessis Robinson.
D'accord. Alors, juste pour boucler sur votre genèse en tant qu'adulte, est-ce que vous disiez que vous étiez originaire de Blois ? Est-ce que les châteaux de la Loire vous ont aussi influencé ?
Aussi, bien sûr, ils m'ont influencé. Et ouais. Puis, autre chose qui m'a influencé, c'est qu'à la fin de mes études, j'ai fait un post-diplôme d'urbanisme sur les villes orientales. J'ai travaillé à ce moment-là avec les manches à Goldblum sur la Thaïlande et sur toute l'architecture de ville orientale. Et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important pendant un an.
Et vous êtes parti là-bas ?
On est parti deux fois là-bas.
Et où exactement ?
Alors, c'était surtout sur Chiang Mai, mais aussi on a travaillé avec l'université de Chulalongkorn, avec les étudiants thaïlandais. Donc, on a fait des très belles rencontres là-bas. Et on travaillait surtout sur Chiang Mai. Avec beaucoup de relevés du bâtiment de Chiang Mai, avec des propositions de projets, c'était extrêmement intéressant.
Oui. Donc du coup, l'Asie et les châteaux de la Loire.
L'Asie et les châteaux de la Loire. Et ce qui est très drôle aussi, c'est qu'à la fin de mes études, en fait, j'avais fait aussi Centre Ancien. C'est comme ça que j'avais fait après avec Michel Bancon. Avec Michel Bancon, qui était un ingénieur extraordinaire, et Francis Kena. Parce que je me disais, à la fin de mes études, je ne savais que construire, réaliser des bâtiments avec des très, très contemporains, des toitures terrasses. Et je ne savais pas, je ne sais pas faire des bâtiments avec des toits en pente. Donc, j'étais originaire de Blois. J'ai fait mon diplôme sur Blois. Donc, j'ai appris pendant un an, justement, comment étudier un peu le centre ancien. Et faire des bâtiments avec des toits, puisque j'avais jamais, dans toutes mes études, j'étais plutôt dans une architecture plus contemporaine et autre, donc c'était.
Mais là, vous aviez un merveilleux exemple à travers le temps. Le château de Blois, c'est quand même, on part du Moyen-Âge et chacun a son témoigne absolument de manière très forte de chacune de ces époques.
Je suis chacune des époques, entre Louis XII, François Ier, Gaston d'Orléans. Et j'ai fait mon diplôme juste au pied du château de Blois, sur l'espace Saint-Vincent, avec une orangerie qu'on avait réhabilitée, proposée une réhabilitation. D'ailleurs, ça s'est fait par un des confrères, l'a réalisé par la suite, un peu comme ça. Il y avait un vieux bâtiment qu'on a enlevé pour redonner le bâtiment d'origine. Donc c'est intéressant de voir aussi l'importance en fait du passé, des bâtiments, la place qu'ils peuvent avoir dans une ville, l'imbrication dans une ville, comprendre une ville, analyser une ville, bien comprendre comment elle s'est fabriquée, comment elle a évolué. Et après, même, je trouve que même maintenant encore, quand on place un bâtiment, c'est cette analyse d'un lieu, d'un site, comprendre comment les choses sont faites pour que ce que l'on va proposer
soit
en harmonie, ne viennent pas en confrontation systématique avec ce qu'il y a lieu. C'est en tout cas, c'est une manière que l'on a de concevoir nos bâtiments.
Oui. Et puis, être capable d'identifier.
Capable d'identifier.
Parce que c'est pas si évident que ça, d'évaluer le patrimoine. Parfois, il y a des destructions qui sont un peu difficiles.
Oui,
Enfin, en tout cas, au regard de l'historien.
Au regard de l'historien, et puis au regard... C'est très drôle aussi, je trouve qu'en France, on a une culture, justement, de l'architecture au cours du temps, de cette sauvegarde du patrimoine, notamment quand on avait travaillé après avec la Thaïlande. Ils avaient besoin de comprendre comment on analysait notre patrimoine, comment on l'enrichissait, comment on le préservait.
Comment on était, nous, enracinés.
Enracinés. Oui. Parce que dans l'architecture de l'Asie du Sud-Est, en fait, eh bien, on démolissait, on reconstruisait à l'identique. Oui. Je pense que c'était propre aussi à l'Asie, en fait, qui avait un modèle qui a, pendant des millénaires, resté à peu près sur des mêmes systèmes, qui a beaucoup évolué avec l'arrivée du XXe siècle, où tout a été mélangé, il y a eu un mondialisme. Mais avant, tout était préservé, et on reconstruisait un petit peu...
À l'identique,
comme on savait faire, avec des techniques ancestrales. Donc, si on utilisait la brique, eh bien, on la mettait du stucco dessous, et puis après, ça s'abîmait, eh bien, on le reconstruisait exactement à l'identique. Alors que, finalement, quand on regarde, nous, dans notre civilisation, en fait, les techniques évoluaient, et suivant les techniques, on faisait évoluer notre architecture depuis tout temps. C'est ce qui est fabuleux. C'est les techniques qui vont faire évoluer différents types d'architecture. C'est ce que je trouve c'est très drôle, c'est de voir l'évolution en Occident de l'architecture qui évolue suivant l'évolution des techniques. Et des époques, et plutôt la Chine où pendant des millénaires il y a eu un même type d'architecture qui maintenant est complètement bouleversée par le mondialisme où ce qui est fait à New York va être fait à Pékin ou à Bangkok ou
ouais, on vit dans une époque un petit peu particulière. Tout ça va se réguler peut-être.
Oui,
puis nécessairement.
Je pense que d'autant plus maintenant, où on regarde d'autant plus finalement, c'est important, l'importance que peut avoir l'architecture sur le développement, sur la place, le côté, on appelle maintenant l'écologie, mais c'est plus que l'écologie, c'est la place vraiment, l'empreinte que chacun doit laisser sur la Terre. Et l'architecture est quelque chose d'important. Comment fait-on? Comment arrive-t-on à faire la bonne chose au bon endroit, au bon moment? Il y a vraiment une prise de conscience qui existait depuis longtemps. On me l'apprenait déjà à l'école, mais là, vraiment, on sent que les gens sont dans cette attente maintenant de retrouver des...
Ça redevient essentiel.
Ça redevient essentiel.
Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école?
Oui, peut-être plus d'ailleurs. J'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à faire, justement. Je fais beaucoup de bâtiments scolaires. Mon rêve, c'est de faire un musée. C'est extraordinaire.
Ouais. Vous êtes de nombreux architectes à avoir cette envie.
Oui, c'est...
C'est un peu le Graal.
C'est le Graal, je pense, oui.
Ouais. Pourtant, il y a des musées qui se pensent aujourd'hui vraiment dans le mouvement.
Le musée, ce qui est, je trouve, extraordinaire dans le musée, c'est la maîtrise qu'on doit avoir de la lumière. Et je pense que, pour moi, l'architecture, ça ne peut pas se dissocier sans la lumière. C'est la lumière qui va mettre en valeur des formes, qui va mettre en scène des lieux. Et c'est comment faire pénétrer la lumière à l'intérieur d'un bâtiment. Et je crois, je pense qu'un musée, c'est ça. C'est, la lumière doit être complètement maîtrisée.
Oui. Il faut beaucoup de lumière en même temps. Il faut être très attentif au vieillissement des œuvres.
C'est extraordinaire. Moi, un des musées que je trouve fabuleux, c'est le musée de Jean Nouvel à Abu Dhabi, qui est extraordinaire.
Ça fait l'unanimité.
Ouais. Ah, c'est.
Vous avez eu la chance de.
J'ai la chance de le visiter. J'étais avec d'autres confrères et quand on rentre dans ce musée. On a cette coupole qui est énorme, c'est qui
gigantesque,
filtre complètement la lumière et on a l'impression qu'elle flotte dans l'air et on trouve ça normal.
C'est quand les choses apparaissent comme une évidence. Souvent, ce sont des choses très complexes qui sont mises en œuvre derrière.
Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est quand cette complexité, eh bien, elle est nécessaire, elle est là, mais elle n'apparaît pas, elle est
magique.
Elle est magique.
Ouais. Alors, on a parlé de vous. Maintenant, pouvez-vous nous raconter l'histoire de vos projets? Comment tout ça s'est construit?
Alors, mais les projets fondateurs, bon, il y a ceux aussi que j'ai fait avant en agence. J'avais déjà participé, les premiers concours que j'ai fait dans une agence, c'était déjà des bâtiments scolaires, un collège, notamment un collège à Colombes et avec un lycée derrière. C'était un des premiers bâtiments, mais qui était structurant pour la suite de ce que j'allais réaliser. Et donc il y avait plusieurs bâtiments scolaires comme ça que j'ai réalisés, qui sont structurants, mais qui n'étaient pas en mon nom. Et puis après, un des projets vraiment en tant que épicurien, c'est l'Institut Baguère à Asnières, un institut pour malentendants. C'était un bâtiment qui avait énormément de sens, parce que il fallait reconstruire sur un site un bâtiment. On démolissait un bâtiment dans lequel énormément de malentendants avaient vécu. Et quand les malentendants vivent là-dedans, ce qui était important, c'est que tout un tas de vies s'étaient créées, parce que c'est une communauté, donc c'est des vies qui se rencontrent, qui se croient, c'est des amours qui se créent, des vies qui se sont faites entre eux, donc c'était un lieu très très fort, très très chargé pour eux. Donc à pouvoir refaire un bâtiment à l'endroit et essayer de garder de l'histoire de ce bâtiment et en faire un bâtiment complètement contemporain avec la lumière, avec quelques erreurs, parce que je voulais des trucs très vitrés et on m'a dit, mais justement, je me souviens, mais vous avez fait des vitres, il n'y a pas d'intimité dans ces bureaux vitrés, parce qu'effectivement, comme les sourds communiquent par le geste, on voit à travers les vitres, c'était...
La confidentialité,
mais ce qui n'est pas difficile à régler. Donc ça, c'est un des premiers bâtiments, je pense, qui a été vraiment important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est ce premier bâtiment. Après, il y en a eu d'autres lycées qui ont été aussi structurants. Il y a le lycée de Montgeron, que j'ai fait avec François Malizan, qui a été porté parce que c'était un gros projet, qui s'est étendu dans le temps. C'était une extension, une restructuration. Donc, c'était important parce que ça a permis aussi à l'agence de grandir quand on a des projets qui se développent sur le plus long terme. Mmh. Ça, c'était important. Voilà.
Et d'emblée, vous avez introduit des matériaux, des leitmotifs dans ces premiers projets?
Oui, même le premier projet que j'ai gagné, qui était au Plessis Robinson, c'était un projet où en fait, il y avait un centre sportif qui était en bois. Tout de suite, j'avais senti ça comme une évidence.
Et ça fait combien de temps? Ça fait longtemps, ça.
Oh, ça fait plus de 20 ans, 25 ans. Mmh. Et il vieillit très bien, d'ailleurs. Mmh. Hein, avec la restructuration d'école, un budget assez serré, mais le bâtiment lui-même vit très bien. Ça fait plaisir. C'était déjà, puis en plus, ce qui était important, c'était un carrier en restructuration. On avait travaillé avec un paysagiste, c'était Arpenter, hein, Thibaut de Metz et Marie-France. Et un leitmotiv, c'était justement le sport, c'était important que la ville puisse rentrer dans le sport. C'est pas quelque chose qu'on cachait. Ce que je trouvais, ce qui était dommage souvent, on voyait des gymnases et des boîtes fermées. Mmh. Et moi, un complexe sportif, c'est quelque chose d'ouvert. On doit voir l'activité qui se déroule à l'intérieur. Et ça, il peut y avoir des réticences. Attention, faut se protéger. Donc, des grandes salles de sport vitrées en partie basse et protégées du soleil en partie haute, tout en bois. Et ça, ça marche très bien. On avait justement mis des paysagers avec tout un tas d'arbres, des petites CP juste en partie basse. Et les gens passent, voient les gens, les sportifs, et ça les incite à faire du sport. Ça, c'est vraiment important.
Et au niveau justement des matériaux, à part le bois.
Alors après Baguère, c'était un bâtiment qu'on a fait en bardeaux de briques. Pourquoi ? Parce que l'ancien bâtiment était en briques. Donc il fallait revenir sur un lien entre le passé et le présent, hein, c'était important avec l'histoire des gens qui avaient vécu dans ce bâtiment, qu'ils retrouvent en fait une partie de leur ancien
une permanence
dans l'ancien bâtiment, hein, alors qu'il n'y avait absolument rien à voir. Donc avec briques, il y a aussi du béton blanc, hein, et un peu de zinc en couverture, parce qu'aussi c'était une époque aussi où je pensais vraiment que les bâtiments, il était important d'avoir une couverture sur les bâtiments. C'est quelque chose qui est passé, mais au départ, c'était vraiment important pour moi de terminer, de couronner un bâtiment, de lui donner une...
Et vous savez pourquoi ?
Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'était peut-être cette dualité entre l'ancien et le contemporain.
Peut-être un retour aussi à votre réflexion au cours de vos études.
Sûrement. Je pense que les études sont toujours présentes. C'est marrant parce que pour moi, ça paraît encore C'est encore maintenant. C'est,
ouais, vous avez l'impression que c'est hier. Alors
c'est ça, hier et c'est
le
important.
Le temps passe vite.
Et le temps passe vite. Et puis surtout, les études d'architecture, c'est fabuleux. Ayant visité des universités, notamment au Brésil, voilà, qu'est-ce que j'aimerais retourner vers les études pour pouvoir échanger.
Étiez allé aussi au Brésil ?
Je suis allé au Brésil, oui.
Lors de vos études ?
Non, après. Après, en voyage d'études. Et j'ai eu la chance là-bas, une rencontre extraordinaire. J'ai rencontré Oscar Niemeyer.
Vous avez pu échanger avec lui ?
J'ai pu échanger avec lui. C'était un moment fabuleux. C'était un vieux monsieur de 103, 104 ans, je ne sais plus.
Et vous étiez à Brasilia ?
On a été à Brasilia, donc on l'a rencontré surtout dans à Rio, dans son bureau qu'il avait à Rio. Oui. Et donc il nous a parlé de ses projets en France, c'est extraordinaire. Et il nous a même fait une dédicace. Il avait pris un stylo au départ qui était un stylo avec une pointe assez fine. Je dis, bon, comme c'était un vieux monsieur, j'ai sorti mon stipend, j'ai donné mon stipend. Donc il nous a fait tous une dédicace. On était une quinzaine
d'architectes.
Et après, il m'a rendu mon stylo. Donc, j'ai mis un petit ruban autour de ce stylo. Et tous les projets, les premiers coups de crayon, je les faisais avec un peu d'ADN d'une vieillère. Ça me portait chance. Non, mais c'est un des architectes que j'admire le plus au monde, qui est fabuleux. Donc, après, j'ai bien sûr visité Brasilia, par de ses bâtiments.
Et justement, cette fascination, vous l'expliqueriez, vous avez des mots pour la définir ?
C'est la générosité que je trouve chez certains architectes. Voilà, chez Niemeyer, c'est cette générosité qui m'a enthousiasmé. C'est
une passion sans limite.
Une passion sans limite. Des formes, arriver à innover dans des formes, des courbes, donner une plasticité au bâtiment extraordinaire.
Finalement, c'est peut-être s'affranchir de la muralité. S'affranchir des contraintes de la matière ?
Oui, s'affranchir des contraintes de la matière, c'est tout à fait ça. Et alors, c'est très drôle parce que lors de cette visite, on avait rencontré aussi le Bruno Contarini, qui était son ingénieur, qui était plus jeune, qui était un papy de 80 ans, qui nous avait visité, on avait visité avec lui l'opéra fait par de Porzamparc, et donc il avait été l'ingénieur. Et là, c'est une petite histoire aussi. J'avais un maquettiste qui m'avait dit, oui, les ingénieurs français, ils avaient du mal à faire ce que voulait de Porzamparc. C'était un peu compliqué. Et il me dit, j'ai été chercher les ingénieurs de Niemeyer qui sont venus. Et c'était ce fameux Bruno Contarini, qui était un ingénieur extraordinaire, qui aimait l'architecture et qui nous a raconté que, on lui a demandé si c'était difficile de construire avec Niemeyer. Il dit, non, c'était très simple. Notamment sur le Niterói, il nous racontait que ce bâtiment qui est en forme de champignon, lui, il avait fait le toit plat. Il dit, juste simplement pour les efforts, j'ai demandé que ça soit un peu courbe, etc., pour reprendre les efforts, mais c'était très facile.
Ouais.
Et parce que c'était un ingénieur qui était extraordinaire, qui, pour lui, il comprenait tous les efforts qu'il y avait dans un bâtiment, et il disait, c'est simple, il suffit de canaliser les efforts et de mettre des aciers là où ils passent.
Oui, un petit peu à la manière de Jean Prouvé, finalement.
À la manière
une
de
approche
Jean Prouvé.
Assez intuitive.
Oui, c'est assez intuitive, mais malgré tout...
Très pointu.
Très pointu, parce qu'à 80 ans, il avait sorti son petit ordinateur pour nous regarder le diagramme de couleurs. Là, passe, les efforts passent ici, passent là. Donc, mais quelqu'un de très, très pointu. Qu'il y avait cette... c'est là aussi, je pense que c'est l'architecture... Des belles architectures, c'est pas qu'un architecte, c'est des architectes avec des ingénieurs pour pouvoir. Il faut que les deux puissent se comprendre, puissent travailler ensemble. Et là, c'est fabuleux.
Alors, d'autres projets fondateurs ?
Oui, d'autres projets fondateurs aussi, bien sûr. Un des projets fondateurs pour moi, c'était un lycée à Charenton-le-Pont, un lycée. Qui était dans un endroit un peu... C'était un des premiers lycées, je crois, le deuxième ou le premier lycée environnemental de la région Île-de-France. Et c'était à la pointe de Charenton-le-Pont, entre toutes les voies ferrées qui partent de la gare de Lyon et l'autoroute A4. dans ce triangle qui était pollué, qui était dans l'ancien, il fallait faire un bâtiment environnemental.
Donc c'était un nouveau site, il n'y avait pas de lycée préexistant.
Il n'y avait pas de lycée préexistant. Il y avait un lycée qui était un lycée professionnel qui existait du côté du bois de Vincennes, qui devait être supprimé, donc c'était un nouveau lycée. Et donc ce bâtiment, qui était important pour moi, c'était que je travaillais avec Sophie Brindel-Bett au niveau environnemental, et donc tout ce projet, on s'est dit, bon, il y avait 95 dB d'un côté, côté voie ferrée de manière intermittente, autant dans l'autoroute, mais de manière continue, et quand on arrivait à l'angle...
Un truc impossible, en fait.
Un truc impossible, il fallait se protéger. Donc, de là est venue l'idée d'avoir vraiment un bâtiment protecteur. On a travaillé sur des doubles pots. On a fait un des premiers puits canadiens, qui était le plus grand à l'époque en France, qui était des 25 000 m3, qui était pour pouvoir ventiler, en fait. L'idée, c'était de prendre l'air, ventiler, faire des doubles pots, faire passer l'air dans ces doubles pots pour faire à la fois un bouclier phonique et thermique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce bâtiment, souvent, je disais, voilà, on voit le bruit, mais on ne l'entend pas. Ça, c'était extraordinaire, parce que on voyait toute l'activité des trains, des voitures, etc., sur toutes ces circulations.
Et pas de bruit.
Et pas de bruit. Et donc là, et c'est la force d'architecture. En plus de ça, une rencontre avec le proviseur qui s'était passionné pour le bâtiment, avec le puits canadien, donc il maniait ça après, de manière des fois un peu, il changeait les paramètres, ça le passionnait. Et puis aussi, le plaisir aussi dans ce lycée, c'est que c'est un lycée qui est devenu, pour les élèves, l'enseignement professionnel qui était mal vu, bien, top, tout ça, ça redonnait une image au lycée très importante. Le niveau des élèves s'est énormément élevé, et ça c'est une réussite, c'est vraiment une réussite. Ouais. C'est un bâtiment avec toutes petites pointes de boîtes blanches qui sortent. Voilà, c'est un bâtiment vraiment important. Après, bon, il y a eu d'autres. Il y a eu le lycée de Beaupro, qui était vraiment aussi important, avec qui on a eu un prix à COP 22, mais qui était là pareil. C'est un projet. Je suis retenu en région Pays de Loire. C'est un peu comme ça, tac, sur un grand terrain. On ne connaît personne. On arrive. On fait. Et ce bâtiment, il y a tout de suite le site qui vous inspire. On ressent les choses, on ressent le site, comment implanter. C'était dans une légère pente, c'est dans le bocage, à la limite de Beaupro, qui est une très belle ville. Et donc, et faire une rue intérieure, un bâtiment décalé avec une grande rue intérieure, j'avais déjà fait, ça me plaisait, pour faire pénétrer la lumière à l'intérieur. Et là, on a refait un puits canadien qui était encore un peu plus grand. Et puis, le puits canadien, on l'a fait même visible pour les élèves, où ils peuvent aller... Il y avait une vitre pour montrer comment ça se passait, parce que finalement, on s'aperçoit que ça intéressait les gens. Et c'est un bâtiment que j'ai revisité il y a peu de temps, puisque j'ai refait un projet, voilà, récemment, je vous en parlais tout à l'heure, sur la presqu'île de Caen, où il y avait une rue intérieure, et donc j'ai fait visiter aux futurs utilisateurs de l'INSEN ce bâtiment. Donc j'ai revu les utilisateurs de Beaupro qui adorent le projet, qui vit très bien, donc qui a bien vieilli. Et ça,
c'est la plus grande des récompenses.
C'est la plus grande des récompenses. Je pense que chaque bâtiment que l'on fait, c'est un peu comme c'est un enfant qu'on... Voilà, donc on a envie de le voir grandir, vieillir. On y est très, très attaché. C'est chaque fois beaucoup de nous-mêmes que l'on met dans un bâtiment. C'est vraiment important.
Mais tous les architectes n'ont pas forcément cette attention de la vie du bâtiment après. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la vie du bâtiment, une fois qu'il est livré dans son usage, ils n'ont pas forcément une possibilité d'avoir accès à la manière dont le bâtiment vit. C'est peut-être plus facile sur les bâtiments publics.
C'est vrai, mais c'est un peu... Je pense qu'un bâtiment, finalement, c'est le temps qui va juger du bâtiment.
Ouais.
Finalement, et on regarde, qu'on reprend 10 ans après, est-ce que si on se dit, tiens, j'aurais refait un bâtiment, peut-être une chose différente toujours, mais me reconnais dans ce bâtiment, c'est important. Et c'est en ça, même souvent, je trouve dommage, je trouve que les architectes, on devrait pouvoir, pendant quelques années, suivre notre bâtiment, voir.
Je suis complètement d'accord.
Parce que c'est l'expérience, déjà. Aussi, on fait des erreurs, c'est un métier où on apprend, on continue chaque fois à apprendre. Et on a besoin de voir comment telle chose, on expérimente, on a envie d'expérimenter.
D'autant que l'impact est énorme. Donc,
Et donc, il faut voir ces choses. Moi, il y a une chose que j'adore, c'est toutes les dalles béton, etc. Mais les premières bâtiments que j'ai fait comme ça, si c'est mal réalisé, il y a des mousses qui se mettent dessus. Donc,
Mais au niveau de la planimétrie aussi.
La planimétrie, donc ce que l'on va demander, comment on va faire, la pente que l'on doit donner. Et ça, souvent, il faut faire des petites erreurs, mais les corriger. Mais ce qui est aussi intéressant, là, c'est dans le partage qu'on peut avoir à l'agence. Il y a des architectes qui font travail avec moi depuis plus de 20 ans. J'ai Lionel Bousquet, Isabelle Viguier sont avec moi depuis plus de 20 ans. Voilà. Et on a des plus jeunes. Et ça, on partage. On leur raconte nos deux expériences, nos erreurs, pourquoi on va faire ci, comment on va faire ça. Et ça, c'est passionnant.
Alors, ce qu'il y a, c'est que le commanditaire, il se dit, oulala, s'ils font des erreurs, ça a un tel impact que, l'architecte reste un humain.
On reste un humain, et puis, on s'enrichit, c'est toujours, il faut évoluer aussi, les techniques évoluent, et chaque bâtiment est une expérience.
Oui. C'est une alchimie.
C'est une alchimie. Mais pourquoi les bâtiments? Il y en a plein qui me reviennent en tête, parce que aussi il y a le petit centre culturel de Bagneux qui est pour moi...
Fondateur aussi?
Oui, parce que c'est un petit bâtiment. Là aussi, c'est un concours. Je me souviens, c'est normalement pour moi, les concours étaient anonymes. J'avais fait un bâtiment qui était dans une pointe comme ça. C'était pour des personnes qui étaient en attente, un centre culturel ou étaient en difficulté. Et alors là, justement... Tout mon vécu en Afrique du Nord à ressortir, parce que j'ai dit qu'il faut faire un bâtiment protecteur. Donc, il était complètement rond, avec un petit jardin à l'intérieur, les maisons à patio, un petit bassin pour entendre l'eau et tout tournait tout en rondeur. Et ça, c'était très drôle parce que le jour de... il y avait un oral sur concours, je croise un des confrères, Frédéric Gadan. Elle m'a dit, t'as préparé quelque chose pour l'oral? Je lui ai dit, pourquoi il y a un oral?
Vous arriviez les mains dans les poches?
Dans les poches, rien du tout. Mais...
Pourtant, en général, l'oral de l'architecte, c'est un grand moment.
Et donc, il y avait mes panneaux sur place. Et je commençais à raconter le projet. Et je me rappelle, un des membres de jury m'a dit, mais pourquoi vous avez fait un bâtiment complètement en rondeur? Parce que je l'ai ressenti comme ça. Et puis je lui ai dit, si vous voulez un bâtiment carré, il faut prendre un bâtiment carré. Donc je pensais vraiment avoir perdu, finalement ça s'est réalisé. C'était un petit projet, mais vraiment important, qui avait du sens.
Ouais.
Hein, il y en a plein comme ça.
Mais alors, il y a une question qui me taraude un petit peu, c'est en tant que fils d'instituteur, il y a des méthodes d'enseignement et qui ont un peu évolué depuis le temps. Oui. Comment pensez-vous que toute cette ambiance dans laquelle vous avez grandi a pu influer sur les espaces que vous avez proposés? De quelle manière vous avez pu vous affranchir peut-être du cahier des charges pour proposer des alternatives spatiales et qui permettent peut-être d'enrichir l'enseignement?
Alors, ce qui est vraiment important là-dedans, bon, effectivement, c'est... Moi, surtout, je pense souvent à mon grand-père, qui était quelqu'un d'extrêmement généreux, qui s'impliquait énormément, qui était une très, très belle personne. Et puis, après, le fait aussi d'avoir fait de la programmation. La programmation, c'est extrêmement important parce que j'ai fait de la programmation, puis au départ, comme je vous racontais, il fallait se faire retenir des concours, donc c'était un peu difficile, de fil en aiguille. Donc j'ai rencontré des gens et j'ai fait cette programmation scolaire. Et ce qui est très bien dans la programmation, un programmiste, c'est une éponge qui doit absorber en fait tout ce que les utilisateurs veulent. Et après, on doit le retranscrire, le recadrer en plan. Donc on apprend énormément dans cette... Et ça, je pense que ça me sert toujours. C'est que quand je lis un programme, je le comprends, je sais complètement l'analyser, voir où on peut aller, ce que l'on peut faire avec un programme. Et ça libère de bien comprendre un programme, de bien comprendre ce que peuvent attendre les gens. Ça peut libérer après comment on peut...
Dans la manière
de faire l'architecture par la suite. Mais c'est vrai que quand je commence un projet, pour moi, ce qui est vraiment au départ, c'est la fonctionnalité d'un projet. C'est quelque chose qui est essentiel. Un projet, il n'est pas fait pour soi. C'est pas une sculpture que l'on va faire, qu'on aime ou n'aime pas. Au départ, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où les gens doivent se sentir bien. Et donc, les bâtiments scolaires, c'est de bien comprendre aussi cette fonctionnalité, comment elle doit être, comment les choses doivent s'organiser. l'importance d'une circulation qui doit bien distribuer les espaces, qu'on rentre dans un bâtiment, qu'on comprenne tout de suite comment il fonctionne. C'est quelque chose que j'essaye de rendre le plus clair possible, le plus simple possible pour que justement on puisse après bénéficier au mieux des espaces.
Mais toute cette ambiance justement dans laquelle vous avez, comment vous l'avez réinjectée dans votre travail ? L'apprentissage du savoir, est-ce que ça passe par l'acoustique ? Est-ce que ça passe par une organisation des classes ? Est-ce que ça passe par des vues ?
Beaucoup par les vues, ce qui est important, c'est cette organisation, c'est les vues, c'est faire rentrer la lumière, c'est les perspectives. Un bâtiment, c'est pas quelque chose qu'on va mettre au milieu de nulle part. Il est dans un site, dans un lieu, donc il y a une relation avec son espace extérieur qui va définir ce que doit être le bâtiment et comment on doit être à l'intérieur. Donc c'est tous ces éléments que l'on doit mettre vraiment en place pour que le bâtiment soit le mieux inscrit en fait dans son environnement. Et ce qui est important, parce que pour qu'un bâtiment soit le mieux compris, le mieux perçu et que ça apaise aussi les gens, c'est faire rentrer un maximum la lumière à l'intérieur de ces bâtiments, avoir des vues. Souvent, on parle dans les bâtiments scolaires, surtout ce qui est plus problématique, c'est dans les collèges, c'est la surveillance, etc. Donc il faut que c'est des bâtiments qui soient clairs, lisibles. Mais il ne faut pas que les gamins aient l'impression d'être dans une prison ou quoi que ce soit.
Oui, mais à l'inverse, si on peut regarder dans la cour et on peut complètement échapper au discours du professeur, on peut rêver.
On peut rêver, mais il faut rêver. Et justement, le professeur, en plus, s'il a des gens apaisés, etc., ils l'écouteront davantage.
Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de ces architectures aujourd'hui de bâtiments d'enseignement où on démultiplie, la porosité dans l'espace ? Où on propose des espaces où peut-être plusieurs classes vont pouvoir travailler de manière juxtaposée. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de travailler sur ce genre de bâtiment et de quelle manière ça résonne pour vous ?
C'est important et c'est assez difficile aussi de faire évoluer les choses.
Hein, oui.
Parce que même le bâtiment public, souvent on dit que...
En France, oui.
En France, on a un carcan, il faut que ça corresponde à telle ou telle case. Alors que... Justement, les choses doivent évoluer, notamment les salles de sciences. On est encore salles de sciences physiques, chimie, etc. Alors que je pense qu'il faudrait plus des salles d'enseignement général et un grand laboratoire où des petits groupes viennent, se mettent autour d'une table avec un professeur, échangent. Et non. Mais c'est très difficile à faire évoluer. Il y a des programmes d'inspection académique qui définissent telle ou telle chose. Et justement, j'ai essayé par la programmation, par des groupes d'études, d'en parler, d'essayer de faire évoluer les choses. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est intéressant. Alors, souvent, on offre des espaces aussi, c'est que ces espaces soient le plus flexibles possible parce qu'ils doivent pouvoir évoluer. Et je pense aussi, les bâtiments, c'est que ils sont peu utilisés finalement par rapport. Mais je pense que la formation des gens va être de plus en plus importante tout au long de leur vie. Et je crois qu'il serait vraiment important de faire rentrer d'autres personnes, des adultes, etc., dans ces bâtiments scolaires pour qu'ils puissent à nouveau apprendre. Parce que la vie va maintenant de plus en plus, on va avoir plusieurs métiers, plusieurs formes de formation. Et je pense que ces bâtiments-là, justement, doivent être ouverts pour les accueillir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Ainsi se termine le volet 1 de cette interview qui est très riche. C'est pourquoi nous avons décidé de la diffuser en 2 volets. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour le volet 2. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.